Summer's just around the corner, so give your body the care it deserves with Osea's best-selling Andaria Algae Body Oil. Created by infusing Andaria seaweed in barrels of botanical oils, it leaves skin silky soft and glowing. Plus, it's clinically proven to improve elasticity and deeply moisturize without feeling greasy. It's safe, clean, vegan skincare. Get 10% off your first order at OseaMalibu.com with code GLOW, plus free shipping on orders over $60.
Bienvenue dans Au cœur du crime, une série proposée par l'Obs. Ils ou elles se sont retrouvés de par leur métier ou par le hasard de la vie au centre d'une histoire judiciaire et ils nous racontent comment leur existence a soudain basculé. L'affaire Grégory, troisième épisode, Doane Buy reçoit l'ancienne journaliste Laurence Lacour.
Le procès de Jean-Marie Villemain, ça aussi, c'est un moment qui a été, j'imagine...
C'est la première fois que, par exemple, les avocats de Bernard Laroche rencontraient les Villemain. Ça faisait 9 ans qu'ils étaient dans un face-à-face perpétuel et ils ne se connaissaient pas. C'est très particulier quand même. Et puis c'est la première fois que Jean-Marie Villemain retrouvait Muriel Boll et Marie-Ange Laroche, dont il attendait... qu'elles parlent, si elles avaient quelque chose à dire. La première heure d'audition de Jean-Marie, il a parlé pendant une heure sans s'arrêter, et il a tout raconté depuis le début, les manœuvres des journalistes, celles des avocats, celles des flics, les faiblesses de Lambert et tout, et il l'a fait dans une syntaxe parfaite, fluide. C'était un moment très très puissant, quoi. Très puissant.
Et vous-même, vous avez déposé, donc.
Alors moi, j'ai déposé parce que donc on était en 93, j'allais achever l'écriture de mon livre, et donc j'avais quand même une vision très précise du jeu trouble des médias dans cette affaire, des journalistes et des avocats, ce que j'avais pas au début. Au début, j'avais mes sentiments, j'avais mes souvenirs personnels, mais j'avais pas analysé, j'avais pas fait d'enquête, j'avais pas étudié. Là, j'avais tout fait, donc j'avais tout en mémoire, tout était, et j'avais dit à Jean-Marie, je peux pas imaginer que tu sois jugé. Sans qu'on éclaire ce côté-là. C'est pas possible. Les responsabilités des journalistes, des avocats et des flics sont telles que je sais que la cour d'assises ne va pas les étudier parce qu'elle n'a pas la matière, elle n'a pas, quoi. Donc je lui dis, moi, je suis prête à venir déposer. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis allée déposer pendant 45 minutes. J'ai raconté tout ce qui s'était passé, de la mort de Grégory à la mort de Bernard Laroche. J'ai rien caché de ce qu'avait fait chacun. J'avais tout, j'avais les citations, j'avais les dates, j'étais au top de la mémoire, pour le coup. Et personne n'a bronché. Le président m'a remercié. Et je sentais qu'à côté, ils étaient un peu assommés. Mais bon, voilà. Pour moi, c'était un devoir de le faire. Un devoir civique.
On va évoquer, d'ailleurs, le juge Simon pendant le procès, non ?
Ah bah oui, alors les avocats de la partie Laroche vont jouer un jeu, une fois de plus, pas très glorieux quand même. Ils savaient très bien qu'il était malade parce qu'il avait été soumis à des expertises psychiatriques et médico-psychiatriques dans le cadre de la procédure. Et ils avaient eu vent de ces... Enfin, ils n'avaient pas eu vent, ils avaient eu connaissance de ces expertises. Ils savaient très bien qu'il n'était pas du tout en état de déposer, mais ils n'ont pas cessé de réclamer son audition. Et comme il ne venait pas, et pour cause, voilà, il faisait passer pour quelqu'un qui se dérobait à sa charge et à ses responsabilités. C'était pas très glorieux, ça.
Et c'était su que vous aviez cette relation avec...
Non. Alors oui, la rumeur avait un peu couru. C'était quelque chose de très délicat à manier. Moi, maintenant, j'en parle parce que d'abord, j'ai le recul. Je peux me le permettre 30 ans plus tard. Mais à l'époque, les gens n'osaient pas trop. C'était quand même pas simple. Le président Simon, comme on disait, était une personnalité très respectée, très statut du commandeur. Et les gens ne savaient pas trop comment manier cette histoire de relation avec une jeune journaliste de 35 ans, sa cadette. Mais oui, il y a une question qui a été posée au procès, qui est tombée complètement à plat. Et on m'a demandé comment il allait. J'ai dit, il va bien. Et puis voilà, j'ai répondu ça comme alors qu'il n'allait pas bien du tout. En plus, il n'était pas bien du tout à ce moment-là. J'ai dit ça parce que je ne savais pas quoi dire d'autre. Et puis, ça n'a pas eu de conséquences.
Ce qui est hyper frappant dans toute cette histoire, c'est que vos destinées ont été complètement imbriquées, emmêlées. La vôtre, le juge Simon, les Villemain. Et d'ailleurs, le quatrième enfant des Villemain, il s'appelle Simon, c'est ça ?
Oui, Simon est né en 98, donc quand même quelques années, une fois qu'après que la paix soit revenue. Et effectivement, ses parents l'ont prénommé Simon en hommage au juge Simon, qui leur avait sauvé la vie.
Alors j'imagine que vous pensiez que cette histoire était finie, ou en tout cas presque finie. Mais en juin 2017, les Jacob et Muriel Boll sont mis en examen. Comment vous avez d'ailleurs appris? Enfin, je ne sais pas, c'était BFM, c'est la radio?
Ah non, c'était plus au cœur du système que ça, parce que moi je suis témoin dans ce dossier aussi pour avoir recueilli des confidences, notamment d'une infirmière qui avait des choses importantes à dire. Donc moi j'avais déjà été entendue début 2016. Donc depuis le début 2016, je savais, même si j'ai pas d'avocat dans le dossier, mais je savais.
Et que ça allait repartir.
Voilà, je suis très proche maintenant de Christine et Jean-Marie Villemain, et par eux je suis informée de tout au jour le jour. Donc je savais, j'ai pas du tout été surprise, je savais ce qui se préparait. C'est un SMS de Christine qui m'a informé qu'il y avait 5 personnes en garde à vue le matin même et eux-mêmes ne savaient pas qui.
D'accord.
Donc ils étaient un peu surpris qu'on passe de 1 à 5.
À 5, oui.
Voilà, ils savaient que Muriel Boll allait sans doute revenir dans le champ, mais ils ignoraient qui étaient les 4 autres. Donc je l'ai appris comme ça. Alors moi, je me suis tout de suite protégée. J'ai rien voulu lire, rien voulu écouter. Mais ça a été un peu difficile parce qu'on peut ne pas allumer la radio ni la télé, mais il y a les SMS.
Ouais.
J'ai reçu une pluie de SMS. Et là, j'ai coupé, je me suis dit, bon, j'ai eu un réflexe très bête, je me suis dit, bon, ben, je vais m'allonger, je vais fermer les volets, je vais attendre que ça passe. Donc j'ai tiré les rideaux, je me suis allongée, et au bout d'un quart d'heure, je me suis dit, Laurent, c'est mal barré, parce que je ne pense pas que ça passe.
Ça ne va pas passer. Parce que ce qui est frappant, c'est l'effet répétition. C'est-à-dire qu'on avait cette conscience-là du fiasco médiatique que l'affaire avait été. Alors même si vous n'avez pas regardé, est-ce que vous avez l'impression que des leçons ont été tirées du ratage de l'affaire Grégory, que ce soit d'un point de vue médiatique ou judiciaire? Et qu'est-ce qui a changé depuis?
Alors, ce qui a changé quand même dans la justice notamment, c'est pas négligeable, c'est que la justice a appris à communiquer. Pour ce qui est des journalistes, il y a eu sur les 25 ans des évolutions qui ont été brutalement interrompues par la survenue du Tout Info. Je le sais parce que j'y ai participé cette fois-ci aussi. Dans les années 90, on a formé, moi-même, j'ai travaillé longtemps à l'école de journalisme, on a formé beaucoup de journalistes au traitement du fait judiciaire. Ce qui nous a manqué, nous, au début, et moi la première, c'est une bonne connaissance et de la procédure et du monde judiciaire. Et donc, on a fait des interprétations monstrueusement idiotes ou erronées de ce que l'on croyait savoir. Par exemple, beaucoup de gens pensent que c'est une infamie que d'être mis en examen. C'est sûr que ce n'est pas très agréable, mais être mis en examen, c'est d'abord avoir un moyen de se défendre. Et ça n'est jamais dit. Des choses comme ça, vous voyez. Donc ça, quand même, je pense que les journalistes ont une meilleure connaissance de ce milieu, de son fonctionnement, et donc forcément, ils en font une lecture plus saine. Et quand même, ça a permis d'éviter bien des erreurs que j'avais commises ou des pièges dans lesquels j'étais tombée, comme les autres, mais enfin, je ne parle que de moi en l'occurrence. Ce qui n'a pas changé, j'ai l'impression, c'est les avocats, qui restent quand même des grands manipulateurs devant l'éternel et qui jouent de la nécessité d'aller vite et de remplir notamment les canaux audiovisuels. Et donc, il suffit qu'un avocat se pointe, on lui tende son micro. Parce que moi, je ne faisais plus à la fin. À la fin de l'affaire, je n'en pouvais plus. Quand les avocats sortaient, je me souviens d'une fois, je me suis assise sur le trottoir en disant « ce sera sans moi cette fois, je n'en peux plus ». De toujours être le porte-parole de gens qui disent soit des choses qu'on devinait fausses, soit qui disent tout et son contraire en l'espace de 2 semaines. Ça, je crois que ça n'a pas trop changé. Voilà, je suis désolée pour les avocats, mais c'est une réalité. Et pour les journalistes, le positif qui avait pu être acquis au cours des années 90 jusqu'au milieu des années 2000, a été percuté malheureusement par le Tout Info. Ça, la répétition de l'information comme ça, mais ça tient plutôt de la propagande, hein, il faut bien le dire quand même, le fait de vriller un peu les cerveaux comme ça, avec des formules constamment répétées. Je me protège beaucoup de ça, je les regarde pratiquement pas, mais bon, il m'arrive quand même, comme tout le monde, de passer devant une télé lorsque c'est allumé. Et ça, je dois reconnaître que parfois, je me dis, mais ces journalistes-là, ils n'ont pas de famille, ils n'ont pas de frères, ils n'ont pas de sœurs, ils n'ont personne pour leur dire combien ils sont ridicules de brasser du vide.
« le tout info qui fait que pendant des jours et des jours, l'affaire Grégory, c'est un nouveau feuilleton. Et surtout, il y a cet ultime rebondissement tragique à l'été 2017, qui est le suicide du Georges Lambert, qui nous a tous...
J'étais évidemment à la fois bouche bée, mais pas surprise, un peu assommée, beaucoup même. Et je pense que pour le juge Lambert, le retour de tous les fantômes a été trop lourd à porter. Peut-être sa conscience à lui, sa responsabilité, il a été dévoré toute sa vie par ça. Mais malheureusement, ça ne m'a pas tellement surprise non plus. C'est un personnage que j'ai vu toujours un peu fragile. Chaque fois que j'ai eu l'occasion de l'entendre s'exprimer au cours de ces décennies, et je suis désolée de le dire, bien qu'il soit décédé, il ne s'est jamais vraiment remis en question. Il n'a jamais vraiment analysé ses erreurs et leur impact sur la vie des gens. Et j'ai eu le sentiment qu'il a toujours gardé plutôt ce comportement narcissique qu'on lui a connu. Je me souviens par exemple en 89, je l'avais appelé pour mon enquête. Et il avait clos l'entretien en disant... Vous savez, Laurence, je suis sûre que si on faisait un sondage, je suis populaire, je suis très populaire. Bon, est-ce que c'est vraiment le problème de savoir si le juge Lambert est demeuré populaire et qu'il faut faire un sondage pour ça? Il avait cette tendance, malheureusement, effectivement, narcissique, que nous avons tous vu, observé, qu'on a vu dans ses ouvrages, dans son exposition, souvent volontaire quand même devant les médias. Et je pense que sa blessure a été trop grande ce jour-là, lorsqu'il a entendu, parce que je crois que c'est un peu concomitant, la lecture des lignes de Maurice Simon, des carnets de Maurice Simon, qui n'étaient pas très flatteuses pour lui, quoi.
Après, ce qui est terrible, c'est ce côté comme une histoire qui revient toujours au point de départ, avec pression médiatique, et il y a un mort.
L'emballement qui se termine par un drame. Dieu merci, on en a évité quelques-uns quand même. Mais c'est vrai que là, c'était stupéfiant. Alors, il y a quand même une grande différence entre hier et aujourd'hui. C'est que la partie la plus noire de cette affaire, celle qui a mené à l'assassinat de Bernard Laroche, c'est quand même d'abord les médias qui accusaient, avant que ce soit la justice. Ouais. C'est une poignée de journalistes qui, dûment téléguidés, avec des raisons bien particulières, qui seraient trop longues à développer, mais c'est quand même une poignée de journalistes qui a décidé que c'était Christine Villemain la coupable et qu'il fallait qu'elle se substituait à la justice. Complètement. Là, la presse dit ce que fait la justice. Mais voilà, c'est quand même une différence non négligeable. Parce que quand ce sont les journalistes qui décident de qui est coupable, ça, c'est gravissime, gravissime. Et je me souviens d'une fois en 85 où Christine Villemain avait refusé par téléphone de donner une interview à l'un des journalistes les plus puissants de cette affaire. Et il lui avait dit « Ah madame, vous ne voulez pas me parler? Eh bien sachez qu'un jour l'opinion publique vous jugera et que l'opinion publique c'est moi qui l'a fait. » Une ivresse de puissance que rien n'arrêtait, quoi. Vraiment, il n'y a aucun garde-fou à l'époque. Donc la grande différence c'est ça. Aujourd'hui on dit ce que fait la justice sans savoir si elle fait bien. Mais on ne se substitue pas à elle. C'est quand même un progrès.
Après, ce qui est très troublant aussi, c'est que 35, bon, voilà, beaucoup de personnes sont mortes, les personnes qui peut-être savaient. Et voilà, par rapport à cette affaire irrésolue, quel peut être l'épilogue de cette affaire?
Quel peut être l'épilogue? Je n'en ai aucune idée. Je pense qu'elle va encore générer des événements inattendus, sans doute. Je ne serais pas étonnée qu'il y ait d'autres suicides, franchement. Mais j'espère que non, bien sûr. J'arrive pas à imaginer une fin à cette histoire. Une fin qui nous satisfasse. Des fins, il y en a eu temporairement plusieurs. Mais une fin qui satisfasse tout le monde, je n'arrive pas à l'imaginer. Mais en même temps, c'est aussi une histoire qui est le reflet d'une époque. Et cette époque, au bout de 35 ans, elle est en train de virer dans une autre. Enfin, on sent qu'on est quand même dans notre... Comme la mort de Grégory est arrivée à un moment charnière de la société, fin des années 80... qui a ouvert sur toute autre chose. Là, on arrive dans une époque dont on ne peut pas prédire ce qu'elle sera, mais on sent bien qu'elle ne sera pas la même.
Mais est-ce qu'un fait divers, aujourd'hui, pourrait avoir un tel retentissement? Parce que c'est vrai que je me rappelle des blagues qui étaient dans la cour de récréation.
Oui, ça fait partie de l'inconscient collectif.
Il y avait plein de blagues atroces dans les cours de récré. On parlait du sac poubelle bleu. Et c'était devenu un objet de blague. Et c'est frappant parce que ça montre à quel point, en fait, ça a infusé dans... notre culture populaire. Je crois qu'il y a même, vous dites dans votre livre, il y a même des questions à Trivial Poursuite. On en parlait dans les
Trivial Poursuite, il y a plusieurs questions qui portent sur cette affaire, oui. Mais je me souviens que dans les années 90, oui, notamment quand la dérision s'est vraiment emparée de cette histoire, oui, c'est ça, à la fin des années 80, quand il y a eu le bébé de chaud, puis après les guignols, et puis après toutes les blagues.
C'est arrivé près de chez vous.
C'est arrivé près de chez vous, tout ça, le film. Les deux parties les plus touchées sont évidemment les Villemain et les Laroche. Et les bols, pour ce qui est de Muriel en tout cas. Tout ça, ça les atteignait, ça les démolissait. Le temps d'une soirée, il suffisait qu'il y ait un truc parce qu'ils regardaient la télé. Et là, ça les démolissait complètement. C'était terrible, terrible. Les gens ne se rendent pas compte, mais on ne peut pas non plus leur demander d'intégrer, de porter la vie des uns et des autres, mais il faudrait quand même que les gens réalisent que ce n'est pas une affaire, ce sont des êtres vivants qui souffrent, alors pas seulement eux, mais beaucoup de gens ont souffert dans cette histoire. Et un jour, il y a un directeur d'usine qui avait été interrogé justement par le magistrat Maurice Simon et qui lui avait dit une phrase en disant, en gros... On voudrait voir cette affaire résolue parce qu'elle a bouleversé toutes les valeurs qui comptent dans une vie. C'est-à-dire le rapport à la mère, le rapport à l'enfant, l'introduction de l'argent dans ça, qui n'était quand même pas attendu. Le respect des autres, l'intégrité physique, l'intégrité morale, tout ce qui compte dans une vie, tout ce qui fait qu'un homme peut vivre debout et en harmonie avec les gens qui l'entourent, c'est ça. Or là, il n'y a rien eu de tout ça. Rien.
Et les Villemain, donc, malgré tout ce qu'ils ont vécu, c'est aussi l'histoire d'une résilience dingue.
C'est l'histoire d'un amour, surtout, qui, moi, m'a évidemment éblouie de nouveau. C'est l'histoire d'un amour qui n'a jamais été abîmé ni entaché. Ça, c'est quand même extraordinaire. C'est extraordinaire à regarder. Et puis, des gens, oui, très résilients, qui ont reçu aussi leur part de legs moral du président Simon, de Maurice Simon. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, Christine me disait, tu sais, moi, depuis cette époque-là, je sais que je ne dois jamais rien accepter de faire qui aille contre ma conscience. Ouais. C'est vraiment la leçon qu'eux ont retenue. Parce qu'ils avaient été beaucoup utilisés aussi, beaucoup manipulés. Il faut faire des photos, parce qu'il faut de l'argent, parce qu'il faut convaincre l'opinion publique, parce qu'il faut sourire, parce qu'il ne faut pas qu'on pleure, parce que ceci. Donc, boum, ils avaient suivi ça un peu comme une boule de flipper, quoi. Ils avaient fait ce qu'on leur disait de faire. Ils étaient jeunes, ils n'avaient pas la résistance ni la capacité de s'y opposer. Maintenant, ils sont très fermes sur leur choix, bien évidemment. Ils n'ont pas 60 ans encore, ils sont encore relativement jeunes. Mais voilà, donc résilients parce qu'ils ont croisé aussi la route de cet homme-là qui, sans jamais manifester de familiarité à leur égard, à part être respectueux, a su leur transmettre aussi les grandes lignes pour se reconstruire. Sans lui, il serait mort, ça c'est clair, vraiment.
Et aujourd'hui, pensez-vous qu'il pourrait y avoir un fait divers qui ait une telle résonance ?
Je pense que le fait de zapper offre une capacité de désintégration, de déflagration. Je veux dire, je doute qu'on arrive maintenant à cristalliser de la même manière un seul pays, une seule... Parce que là, ça a quand même touché toutes les couches de la société. Mais
toute la France parlait de...
Je me souviens d'avoir croisé Giscard d'Estaing dans une soirée. Il est venu me voir pour me dire, alors, est-ce que c'est la mer, est-ce que c'est pas la mer, voilà. Et de même, je me souviens d'avoir dîné à côté de Cohn-Bendit, il y a longtemps, avant qu'il soit le Cohn-Bendit d'aujourd'hui, qui me dit, alors, est-ce que c'est la mer, c'est pas la mer, enfin,
tout le monde en parlait.
Tout le monde nous posait la même question, il n'y avait pas que moi, bien sûr. Donc, pour arriver à ce point d'agrégat, je pense qu'aujourd'hui... Je sais pas, c'est très très difficile à dire. Mais là, il y a vraiment un alignement des planètes qui fait que cette histoire, elle a tous les ingrédients pour devenir ce qu'elle est devenue, évidemment. Et pour retrouver cet ensemble de ces 100% de paramètres, je pense, de critères, je ne sais pas, mais je ne crois pas. Et puis je pense qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, que je n'aime pourtant pas, auraient un mérite... C'est qu'ils, par rapport à l'époque, c'est qu'ils aspireraient toute la bêtise, la haine, toute cette cruauté qu'on a connue, nous, en direct, et permettraient aux intéressés peut-être de s'en protéger. Les réseaux sociaux, personne n'est obligé de...
D'accord.
Personne n'est obligé d'y aller, personne n'est obligé de les lire. Je pense qu'il y aurait des moyens peut-être...
C'est que cette violence, finalement, elle serait dans cet espace-là, mais cantonnée dans cet espace.
Je pense qu'elle serait aspirée par cet espace-là et que c'est un espace qui est sûrement peut-être plus facile, je ne sais pas, à éviter que ce qu'a connu Christine Villemain...
Qui recevait des lettres, elle.
Qui recevait des milliers de lettres anonymes, certaines souillées, de papier toilette souillé, enfin, des trucs qui l'ont vraiment atteinte directement. Aujourd'hui, elle ne les aurait pas. Les gens ne lui écriraient pas. Ils se déverseraient sur les réseaux sociaux. Donc, peut-être que ce serait plus facile, finalement, de se protéger. Maintenant, si vraiment aujourd'hui, quelqu'un, elle ou une autre, ou un autre, était pris de nouveau dans le même engrenage, ça voudrait dire qu'on n'a vraiment tiré aucune des leçons du passé. Donc, c'est même pas concevable à mes yeux.
Merci beaucoup, Laurence Accourt.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code PROGRAM.